عسلامة، مرحبا بكم الكل في برنامجكم ستارت اب. حلقة اليوم حاضر معنا السيد مهدي بلقرون، هو جينا من فرنسا. الحوار هذا باش يكون باللغة الفرنسية نيس با
سي ميو. Je comprends très bien et je parle mais je préfère le français pour utiliser la bonne sémantique et les bons mots.
Voilà. Mehdi Belgroun, qui est le DG de Cycle Family Office. Marhaba bik. Bonjour, merci. Bienvenue.
Merci de m'accueillir.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Cycle Family Office, c'est quoi? Vous faites quoi?
Cycle Family Office, c'est l'idée de trois personnes, trois associés, une avocate d'affaires ainsi que un expert en finance. On avait l'habitude de travailler ensemble avec des startups, parce que moi j'avais un écosystème autour de moi de startups qui avaient des besoins réels, que ça soit dans le juridique, dans le conseil, dans la recherche de financement, levée de fonds et ainsi de suite. Et à force de se passer les clients comme ça, on s'est dit mais attends, en fait il y a bien un service qui doit être créé, qui est que dans un seul endroit on ait toutes les compétences. Et là on s'est dit quel format ressemblerait plus à ceci. Donc on a vu au début une banque d'affaires, on s'est dit peut-être une banque d'affaires, mais c'est très spécifique les banques d'affaires. Là on s'est dit une family office, mais une family office 2.0. 2.0, pourquoi? Parce qu'une family office, pour que vous sachiez, une family office, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une entité qui va pouvoir gérer la fortune de personnes fortunées et qui ont de grands groupes et ainsi de suite. Et ceci me gênait un peu parce qu'on était vraiment dans une niche, alors que ces services-là pouvaient être orientés vers les TPE, PME et start-up qui en avaient le plus besoin. 2.0 aussi, pourquoi? On n'oriente pas sur prioritairement vers le patrimoine et la gestion de patrimoine, mais plutôt vers ce qui rapporte le patrimoine, le dirigeant et son entreprise. Donc on va envoyer les forces de conseil en stratégie, de tout ce que je vous ai listé, vers ces deux sujets.
Très bien. Alors, ça, c'est pour ce que c'est qu'un family office aujourd'hui. On entend souvent le mot, enfin, on entend le mot et c'est bien de le définir, d'y donner une définition. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un family office 2.0.
Ouais.
C'est juste pour faire joli ou...
Ben, on aurait bien aimé que ça fasse joli, mais non, puisqu'il y a du travail quand même. C'est plutôt... Je te le dis, hein, tu le sais, le family office, lui, a des fonds à gérer. Donc en général, il va les placer dans plusieurs banques pour même faire jouer la concurrence. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi pas ne placer une partie de ces argents-là vers de l'économie réelle et non pas sur des placements, mais de l'économie réelle en injectant de l'argent vers les startups. Parce que c'est un produit qui est très rentable lorsqu'on prend du risque et on peut avoir un effet multiplicateur assez conséquent. Mmh. Et il y a cette synergie aussi à faire.
Très bien. Alors, aujourd'hui, c'est un family office 2.0. Vous l'expliquez pourquoi. Ce que vous faites principalement aujourd'hui, c'est... Bon, bah, après, comme vous l'avez dit, ça aurait pu être une banque d'affaires, mais c'est assez spécifique. Donc, parce que vous faites de l'accompagnement, fusion-acquisition, vous faites de l'investissement, vous faites de l'optimisation, etc. Donc, aujourd'hui, et vous faites également de la corporate innovation. Avant d'arriver sur cet aspect corporate innovation, alors, aujourd'hui, Je lisais ça quelque part. Vous disiez que vous êtes, vous partagez les mêmes valeurs qu'un médecin de famille. J'ai pris note de cette phrase-là. Pourquoi vous dites ça?
Ben, un médecin de famille, c'est quoi? Un médecin de famille, c'est une personne à qui vous avez confiance. Il est là dès la naissance du bébé, jusqu'à, je ne le souhaite pas, mais le décès de la personne en quelque sorte. Et en fait, c'est le fait qu'on puisse suivre tout le cycle de vie du dirigeant et de l'entreprise. Et c'est surtout pour garantir la sérénité des affaires. Moi, j'ai vécu, j'ai fondé quand même deux startups, deux fintech, une aux États-Unis et une en France, dans le financement. Et quelquefois, on ne dort pas la nuit. Il y a des enjeux, mais on n'est que deux cofondateurs. Et là, on se dit, on aurait bien aimé avoir une équipe, mais on n'a pas encore vraiment les fonds pour avoir une équipe juridique, une équipe de financiers, d'experts financiers, d'analyse, pouvoir analyser des packs d'actionnaires. Parce que lorsque des associés pénètrent dans votre société, ben souvent, il y a des coquilles qui se cachent, on l'a vécu. Et on peut se faire avoir, en quelque sorte. Donc, je me suis dit, et on s'est dit avec toute l'équipe, l'objectif, c'est que le dirigeant ou la famille dorme sur ses deux oreilles. Et c'est ce qui se passe avec la santé. Avec le médecin de famille. On sait qu'on a un médecin qui est là et qui veille sur nous.
Très bien. Ça, c'est pour l'image, pour avoir expliqué l'image. Alors, aujourd'hui, concrètement, vous travaillez plus... En fait, réellement, vous travaillez plus avec les start-up.
En fait, quand on a créé le Family Office, moi, j'étais le spécialiste des start-up. J'ai fait 15 années de banque. J'étais directeur d'agent. J'ai fait pas mal de postes. Et quand je suis sorti, j'ai connu que la start-up directement. Donc, ça a plu à mes autres associés parce qu'ils disaient bah, c'est le game actuel, c'est les startups, c'est les enjeux actuels. Et oui, je suis plus orienté moi vers ma spécialité, c'est les startups, la technologie, l'innovation et mes autres associés vont être plutôt dans le juridique, qui est l'avocat et l'expert en finance. Mais l'expert en finance doit savoir valoriser les startups. Donc nos clients aussi ont besoin de ces solutions-là.
Alors, réellement, vous conseillez quoi à vos startups ? Enfin, aux startups que vous...
Startups, alors, les startups que j'ai autour de moi, concrètement, vraiment, premièrement, la plus grande, je vais parler de la levée de fonds, c'est ce que j'ai dit hier, on m'a posé la question...
Parce que là, vous accompagnez également des startups en Tunisie.
Exactement, je mentore, je fais ce qu'on appelle, je suis plutôt dans le mentoring chirurgical, on dégage un besoin, une problématique et on casse le plafond de verre. Hier, on m'a posé la question, et c'est intéressant de vous le dire, c'est qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour les levées de fonds ? Premier conseil que je donne, c'est de ne pas faire de levée de fonds. Pourquoi ? Quand vous faites une levée de fonds, vous vendez une partie de votre boîte. Vous faites rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes de l'extérieur. On ne connaît pas leur intention, et ainsi de suite. Et surtout, il faut investir déjà avec ses propres deniers. Ne serait-ce que 100 dinars. Mais il faut sortir de l'argent de sa poche. Aujourd'hui, on voit des startups qui arrivent avec un PowerPoint, une présentation, et qui souhaitent directement lever. Parce que le problème, c'est qu'on s'est dit que, plutôt les startups se disent, le succès, ce n'est pas que l'entreprise soit rentable, le succès, c'est de faire une levée de fonds. Et ça pose un réel problème dans l'écosystème startup.
Alors que c'est un moyen.
C'est un moyen, merci. L'argent, la monnaie, le cash, le flouze, on peut le dire en tous les KSF, on peut dire toutes les langues possibles, c'est un moyen, c'est un outil pour aller chercher de la rentabilité et encore de l'argent. Si on se dit comme quoi la victoire, c'est d'avoir 500 000 euros sur son compte, les 500 000 euros sur le compte...
C'est pas les vôtres, et c'est... deux, s'ils sont là, c'est parce que normalement, ils sont supposés être dépensés,
voilà.
C'est pour que ça se développe.
Donc, continue comme ça, je vais te recruter, c'est exactement ça.
Enfin,
c'est exactement ça. C'est pas les vôtres. Elles appartiennent à la boîte, et... On a deux façons de voir les choses.
Là, c'est par provocation que vous dites ça, Mehdi Belgroun. Donc, ouais. c'est bien sûr, il faut lever. Enfin, ça, c'est
lever quand il y a un besoin.
Quand il y a un besoin, voilà.
Attention, il faut mettre les choses en face. Et quand vous faites des pitchs, moi, j'ai pitché face à des VC. Je connais des VC, je travaille avec des VC. C'est simple. On a le besoin, la ressource qui va rentrer. Mais qu'est-ce que tu mets en face ?
Bien sûr.
Faut que tu me dises point par point ce qui est en face. Et quand j'ai fait le tour au niveau des pitchs, des early stage là, chez Impact Partner, à chaque fois qu'on me disait on a besoin de temps, je ne voyais pas la slide où on dégageait le besoin. On disait clairement ce qu'on avait besoin. Donc je disais, vous voulez pourquoi ? Et là on me disait, on a besoin de... Et là on peut me dire, recruter parce qu'on a tel plan sur notre roadmap. Il faut justifier, c'est un moyen, il faut lever quand on en a besoin. Et non pas pour avoir une victoire et mettre sur LinkedIn un tel à lever 100 000 dinars ou des choses comme ça.
D'ailleurs, le monde est rempli de startups qui ont levé même beaucoup plus, qui ont même été cotées, etc. Et qui aujourd'hui ne s'en sortent pas.
Il y a eu du burn cash. Hein.
Voilà, donc ça veut rien dire. Donc il ne faut pas que ce soit un objectif en soi, c'est un moyen. Ouais. Et comment on définit justement ce moyen-là ? Comment on définit ses besoins ? Comment on définit à quel moment je vais avoir besoin de lever et pour faire quoi ? Parce que aujourd'hui, c'est un art savoir dépenser.
Exactement. Et c'est un art aussi de savoir s'endetter. Mmh. J'avais une phrase que je disais à mes clients dans mon ex-emploi. C'était il ne faut pas s'endetter, il faut savoir s'endetter. Mmh. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez des étapes sur une start-up qui sont claires. Donc on sait qu'on a l'amorçage, le pré-seed, seed, et après on a les séries pour faire les levées. Chaque série ou chaque levée a normalement un sujet. Je te donne un exemple. La Serie A, souvent, c'est pour gonfler son équipe. Donc, on a besoin...
On va essayer de les faire tout à l'heure. Pour l'amorçage, c'est quoi le sujet en général? Qu'est-ce qu'on est supposé chercher? Qu'est-ce qu'on est supposé...
L'amorçage, c'est qu'on a une idée. On a fait notre deck. Et il nous faut au moins un premier petit ticket juste pour faire notre POC. Proof of concept, c'est-à-dire savoir si mon idée peut fonctionner, peut juste être créée. C'est faisable ou pas? Donc là, je vais donner un peu les chiffres plutôt européens et français. Souvent, ça va être à l'intérieur les business angels, the friends and families. Et là, on va essayer...
Love
money, exactement. Et là, on va aller chercher, ça peut être 10, 20, 30, 50 cas où on va pouvoir avoir son POC. Ensuite, la seed, elle est là pour pouvoir faire son MVP. Son MVP, ça va être aux alentours de 50, voire, et ça peut monter, la seed, elle peut monter, on va dire, à 800 000. Après, ça dépend
des régions. C'est en
pré-seed, pardon. Ouais, pré-seed. Voilà. Pré-seed et seed. Moi, je fais en sorte de mélanger la pré-seed avec la love money.
Avec l'amorçage. Ouais.
Exactement. Mais la seed, ça va être le MVP. C'est se dire, bon, avec le minimum de ressources, est-ce que je peux tester le marché? Est-ce qu'il y a une réponse? Et la série A, en général, de tout ce que j'ai vu, c'est... là, on monte sur des sommes... donc la seed, on va être un tout petit peu en dessous d'un million d'euros. À partir d'un million d'euros...
Ça dépend des marchés.
Ça dépend des marchés. C'est pour ça que je le répète sans cesse. La Tunisie, ce n'est pas le marché algérien. Le marché algérien, quoique la région est à peu près la même, mais l'Europe, ce n'est pas la même chose que les États-Unis. Hein, et je te ferai un comparatif entre les VC et américains, français, européens. Il y a une différence. La série A, ça va être pour le recrutement. On veut partir en croissance. On veut pouvoir s'asseoir sur le marché. Et la série B, souvent, c'est l'internationalisation, où là, on monte sur des sommes faramineuses. Et voilà. Donc, pour moi, il faut suivre les étapes réelles. Il faut déjà connaître bien son marché, savoir combien on doit dépenser, pourquoi faire, et s'adapter en se disant, on est à tel endroit au niveau de la tournée de table, quoi, tout simplement.
Il y a les différentes séries.
Pour les lever, c'est important. Les VC n'ont pas les mêmes mentalités d'une région à une autre. Je parle de VC, et par exemple, je donne un exemple, souvent je donne le même exemple, la mentalité européenne, ou plutôt française, je vais me baser sur français, et par exemple américaine et chinoise ne sont pas les mêmes. Et on le voit directement sur la sémantique, sur le mot en lui-même. VC, venture capital, en France on parle de capital risque. Donc on voit que d'un côté c'est plutôt le risque qu'on va aller jauger, l'autre c'est l'aventure qu'on va faire. Et on le voit lorsqu'on parle directement à des VC américains, ils sont ouverts, ils veulent jumper dans l'aventure ou pas, ils sont plutôt dans l'émotion. Et c'est pour ça que dans les pitchs, souvent on se dit, il faut transmettre de l'émotion. Et le capital risque, voilà, ils vont jauger au maximum. Et le délai, il est long en Europe pour avoir des fonds. Contrairement par exemple à la Chine, j'ai assisté à une... Il y avait une délégation chinoise, j'étais là pour la délégation chinoise de Hangzhou, nouvelle Silicon Valley de Chine. Et en 7 minutes en visio, ils ont levé 700 000 euros avec les Chinois. Le temps n'est pas le même au niveau des régions, la mentalité, le mindset n'est pas le même.
Les montants.
Les montants aussi ne sont pas les mêmes, exactement. Et donc voilà, il y a des enjeux. Et pour moi, il est important de connaître son marché, de connaître son VC, connaître... J'ai déjà vu des startups que avant de les accompagner, qui partaient en rendez-vous pour aller faire une levée de fonds avec des capital risque ou quelque chose comme ça. Ils étudient pas quelle est la thématique de ce fonds. Donc à la fin, ils commençaient à peine à parler, qu'ils disaient non, on n'investit pas là-dedans. Mais il faut que tu découvres d'abord, il faut que tu fasses des due diligence. Sinon, tu vas perdre du temps. Et j'ai connu beaucoup de startups qui ont perdu beaucoup parce qu'ils disaient je rencontre un fonds. Et ils sont contents, bien sûr. Mais non, j'investis que dans l'insurtech, j'investis que dans ceci, et l'autre vend du pain.
Et alors, pour reprendre la question par laquelle tout cet échange a commencé, la question qu'on vous a posée hier, alors que conseillez-vous à une startup qui veut lever, à part ne pas lever?
De ne pas lever,
on a compris, mais quand on veut lever...
Quand il lève, il faut qu'il y ait réellement un besoin, qu'il ne lève pas pour rien. Lorsqu'il y a un besoin, il faut être un très bon gestionnaire. Un dirigeant a deux grandes qualités. Et c'est pour ça que je parlais aussi de la posture du dirigeant. Le dirigeant a deux grandes qualités. Le premier, c'est qu'il doit avoir du courage. Le courage de prendre des décisions. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais il faut avancer. Il faut prendre une décision. Et puis la deuxième, c'est d'être un très bon gestionnaire. Je l'ai toujours dit, et ça je fais le comparatif, j'ai une déformation professionnelle puisque je suis banquier. Je peux avoir un client qui a un salaire de 1500 euros par mois et qui est capable d'épargner des sommes et avoir une très bonne gestion. Et je peux avoir des clients qui ont 10 000 euros par mois de salaire et qui sont toujours à découvert et qui ne sont pas propriétaires, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de gestion. Les personnes, si elles doivent s'enrichir ou si une entreprise doit bien fonctionner, c'est d'être un bon gestionnaire.
Très bien, alors ça c'est pour la partie investissement, la partie start-up. Alors on reste sur ça, mais j'ai envie d'avancer sur l'autre sujet, enfin parler un petit peu des entreprises très très rapidement. En quelques secondes, je vais essayer de résumer les grandes lignes, donc juste pour résumer. Bien sûr. Les archivistes sur Medi Belgrun, donc l'Ium, Harkin à l'Estetmarat, à les start-up, à les levées de fonds, qui fait chez l'Ium, Bjib. فلوس قال هو انا يظهر لي بار بروفوكاسيون شويه نوعا ما معناتها يسالوه شنو نصايحك باش ندخلوا استثمارات وكل يقول لهم باش ما تدخلوش استثمارات يفو با لوفي يقول لهم سي با توت افي فري معناتها بالطبيعة ولكن اوترومون دي اللي حاب يقولوا لازمك تعرف وقتاش تاخذ الفلوس هذيك وعلاش سورتو شنو باش تعمل بها وكيفاش تتصرف فيها مش الفلوس ماهيش هي الهدف الفلوس هي وسيله معناتها باش تحقق اهداف وكل مرحله من عمر الستارت اب عند الاهداف نتاعها كما المراحل الأولى معناتها المرحلة اللي ما زلت تشوف الفكرة متاعك وتحب تشوفها تمشي ما تمشيش وكل حاجتك ممكن مبالغ بسيطة بعد عندك مرحلة وين لازمك تقدم منتوج مينيموم معناتها بالمينيموم وتجربه في السوق وبعد تمشي باش تقدم تكبر الفريق وتعمل فريق اتسيتيرا دونك هذوما كلهم مراحل avec des besoins مختلفين هذا الكل لازم يكون واضح وتعرف كل مرحلة شنو التمويلات تحتاجها وحاول قد ما تنجم انت بيدك تكون الأول ممكن اللي تحط شوية cet engagement. Alors, pour parler de la relation aujourd'hui, le lien entre les startups et les grandes entreprises, on parle beaucoup d'open innovation, on parle de corporate innovation également aujourd'hui. Enfin, vous vous positionnez de par Cycle Family Office, donc qui est la boîte dont vous êtes le DG. Aujourd'hui, vous positionnez voilà, de côtés, vous connaissez les startups, vous connaissez aussi les corporates et vous essayez un petit peu de faire que la magie opère, c'est ça, entre ces deux mondes.
En fait, il faut se dire comme quoi on essaie toujours pour nos clients et nos partenaires de trouver des opportunités ensemble.
Alors, pour vous, c'est principalement vous, c'est les corporates, c'est ça?
C'est les corporates, ça peut être... En fait, c'est même
les
pas
startups,
les
startups, c'est plus.
Ça peut ne pas être les corporates. Je dirais même que c'est même pas les grands groupes, ça peut être des grands groupes. Mais l'important pour moi, c'est vraiment de faire vivre les TPE, PME. Je donne un exemple quelconque. Je peux avoir un client qui est une société commerce tout banale, hein, y a pas de souci, qui fait beaucoup de chiffres. Et je peux avoir de l'autre côté, moi, dans mon écosystème, une start-up qui va avoir une solution de facturation intelligente ou quoi que ce soit. Je jump directement. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle façon de voir les choses dans ton process. Et surtout, j'analyse, comme on connaît très bien, et vous l'avez pu le lire, on ne dépasse pas un certain nombre de clients dans notre family office. Mmh. Parce que l'objectif, c'est d'être, comme je vous l'ai dit, le médecin de famille et être proche et en proximité. Donc on connaît très bien les affaires et donc on sait où sont les risques de l'entreprise, qu'elle soit technologique, financière, et le risque technologique de la transformation digitale.
Et quand vous dites, on le voit très bien, c'est-à-dire vous le voyez individuellement pour chacun de vos clients, vous dites parce que il y a des risques communs, c'est-à-dire
Alors on part toujours d'un risque commun.
Est-ce que vous ubérisez votre compréhension des risques ou pas?
Non, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, chaque entreprise est différente. Même s'ils font la même activité, chaque entreprise est différente parce qu'elle a une gestion qui peut être différente par son dirigeant et des stratégies différentes. Donc, je vous donne un exemple. Nous, on met en lien les deux acteurs, TPE-PME, la start-up, et dans les deux sens. C'est-à-dire que la TPE-PME peut pouvoir investir sur cette start-up contre un MVP chez eux et vice-versa, la start-up peut offrir la solution et TPE-PME va pouvoir rémunérer entre guillemets en se disant bah, écoute, je suis prêt à mettre des sous dans ta boîte. Et là, on crée réellement des vraies synergies. Les grands groupes, aujourd'hui, ils peuvent créer. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Tunisie, mais en France, ça fait depuis à peu près 5 à 10 ans que les grands corporates, les groupes bancaires, ainsi de suite, ont intégré à l'intérieur même, alors on appelle ça des incubateurs à l'intérieur, et parce que j'ai des exemples dans la tête, mais je veux rester un peu, je veux pas donner trop de détails parce que je n'ai pas parlé de ces grands groupes. Ils vont pouvoir investir, et souvent les grands groupes, il y a quand même une petite tâche, c'est que souvent ils vont pas mettre des tickets pour pouvoir prendre 20%, 15%, 10%. Non, c'est soit tu travailles avec nous, soit tu travailles pas avec nous, donc ils prennent des 50% au niveau des parts. Alors que les TPE-PME, eux, c'est de l'investissement. Ils veulent être rentables en investissant sur les startups, mais aussi pouvoir profiter de la solution qui peut être excellente dans leur process de vie de l'entreprise.
Mmh. Très bien. Alors, si vous permettez, nous allons marquer une courte pause et puis reprendre pour parler un petit peu plus de ces corporate incubators, de comment ces grands groupes ou ces PME parfois, hein, comme vous l'avez dit, peuvent s'outiller, que ce soit à travers des structures ou alors profiter de programmes. Ou, voilà, enfin, comment rapprocher ces deux mondes. Donc, quand on a dit ولباس عليها برشا ونجيبوا لها ستارت اب باش تعاونها تنجم تكون حتى تي بي حتى بي ام حتى شركه عاديه معناتها تخدم على بزنس تاع تجاره معناتها عادي ولكن تنجم تكون عندها مشاكل نتاع في الفاكتوراسيون ويقولوا لها تيان فما ستارت اب اليوم عندها فوتره ذكيه تنجم تعاونك وذاك الكل بتبيع باش لي دو انتربريز دايور سو ديفلوب مي او دلا تساك كيفاش نجموا ننظموا العلاقه هذه اكثر اليوم فما طرق مختلفه الكوربريت انوفيشن مثلا هذا كل حبينا نحكيوا عليه بعد شوية بعد الفاصل وموعد الأخبار في برنامجكم ستارت اب راجعين مع ضيفكم ميدي بلغون اللي هو مدير عام سايكل فاميلي اوفيس فاميلي اوفيس 2.0 فصلنا خبريك علاش يقولوا عليها كيا راجعين بعد شوية ستارت اب ستارت اب مواصلين في برنامجكم ستارت اب حاضر معنا ميدي لغون ديريكتور جينيرال دو سايكل فاميلي اوفيس حكينا في الجزء الاول الحوار هذا باللغه الفرنسيه حكينا في الجزء الاول على الفاميلي اوفيس شنو هو حكينا على شنو اللي قاعدين يعملوا هما حكينا على لي ستارت اب ولي ليفي نتاعهم ليفي هي وسيله ومش هدف في حد ذاتها بين طريقه كيفاش معناتها تحط الاهداف نتاعك علاش تعمل ليفي فون كيفاش تصرف شنو تستعملها هذيك كل حكينا فيه بدينا نحكيوا ام تي بو على العلاقه بين لي ستارت اب والمؤسسات الكبرى و با فورسيمون كبرى دايور خذوا دي زيكزامبل حتى نتاع مؤسسات متوسطه وغيره معناتها ينجم حتى ينشط في قطاع عادي مثلا مؤسسه في ميدان التجاره معناتها ولكن تكون عندها مشاكل مثلا في الفوتره نتاعها دونك تجي تخدم على ستارت اب تخدم على الفوتره الذكيه وتدعم بها فوالا هذا هو الخاص رابيدمون ما تشوني كنا نحكيو فيه بونجور
بونجور
الو pour la suite, on a commencé à parler quelques minutes hein, sur l'aspect corporate, etc., et la relation entre les startups et les entreprises aujourd'hui établies. Alors, quelle approche, je sais qu'il y a des corporates qui nous écoutent, des grandes entreprises, mais pas forcément que des grandes, donc quelle approche elle pourrait, pour toutes les tailles, hein, pas forcément que les grands groupes, quelles sont les solutions qui s'offrent à elles pour être en lien d'affaires d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient en tant que donneurs d'ordre et donc les startups en tant que fournisseurs ou alors en tant qu'investisseurs, etc. Quelles sont les différentes pistes, les différentes options qui s'offrent aujourd'hui aux entreprises pour être en lien avec les startups ?
Tout d'abord, il faut parler de l'enjeu. Il y a un gros enjeu qui est la transformation digitale des corporates. Ils doivent évoluer. Hein, que ça soit dans leur process et faire intégrer l'innovation dans leur entreprise. Et pour cela, il faut faire appel à des startups parce que les startups sont tellement agiles qu'ils sont capables de déployer des solutions très rapidement. Un corporate devra avoir un chef de projet, recruter, ainsi de suite, ou même s'ils ne sont pas recrutés, ils doivent travailler sur le projet. Ça peut prendre entre 1 et 2 ans. Là, on a la chance d'avoir un écosystème de startups avec des solutions brillantes. Et aujourd'hui, c'est les startups qui font le premier pas vers les corporates. Et malheureusement, certains ont la porte fermée, d'autres vont pouvoir entrer avec des conditions assez difficiles. Et donc, Pour moi, il faut inverser la tendance. Il faut que les corporates, plutôt, ou les entreprises, aillent vers les startups. C'est eux qui doivent aller recruter ces startups pour faire évoluer leurs solutions. Et on a différents moyens de travailler. Donc, on a le fait d'aller chercher une solution basique. Hein. Donc, ça veut dire que le corporate a un besoin réel sur, je sais pas moi, une technologie qu'il recherche pour son entreprise. Dans ces cas-là, il va prospecter. Il y a aussi une autre façon de faire. C'est d'intégrer directement une sorte d'incubateur à l'intérieur même de la boîte. Parce que ça leur permet d'avoir une veille technologique, puisqu'ils sont à l'intérieur de la boîte. Ils sont financés, bien sûr, par les corporates, les startups, pour pouvoir... Et c'est, on va dire, un donnant-donnant. On les incube, et en même temps, on peut bénéficier de leurs solutions. À la fin, il peut y avoir des exits, même pour des startups, et le corporate peut récupérer la solution. Et donc, en plus, on réduit les coûts de production d'une solution. Et puis, il y a un troisième point. Il faut que les corporates travaillent avec les incubateurs nationaux, puissent venir faire même du mentorat, collaborer avec les incubateurs déjà existants. Je vais vous parler quand même de, par exemple, Impact Partner, parce que je les connais. Que ce soit les corporates qui viennent aussi au sein de ces structures pour pouvoir mentorer sur certains sujets, mais aussi, pourquoi pas, travailler avec ces incubateurs-là et créer des liens directs. Et donc, ils ont accès...
Montrer des programmes.
Exactement. Et ils auront accès à un pool de startups qui est là et qui, en plus, il y a un turnover. C'est-à-dire qu'ils vont voir pas mal de start-up. Il y en a qui vont sortir du programme, donc il y en aura des nouveaux. Et en même temps, pour moi, c'est un devoir pour les corporates d'avoir une veille sur le sujet des start-up et des technologies. Parce qu'il faut savoir une chose. Les banques l'ont compris à un moment donné. Je parle par exemple de l'Europe. À un moment donné, ils voyaient les start-up, il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, les néobanques, toutes ces nouvelles technologies de fintech, comme des concurrents. Et après, ils ont compris... qu'en fait, il ne faut pas qu'ils soient des concurrents. Il faut qu'ils soient carrément des partenaires. Et c'est là où on a vu que, je donne un exemple par exemple à Conto, en France, qui va travailler avec telle banque, et que la banque va même investir dedans. Ils l'ont compris bien tard. Et il faut avoir ce genre de mindset pour les corporates, de se dire, il faut travailler avec les startups, parce que c'est un agent économique qui est extraordinaire pour la croissance du pays.
D'accord. Alors, pour vous, c'est ça les trois pistes?
Les trois axes, oui.
Les trois axes. Donc, c'est travailler via se rapprocher de programmes déjà existants, de gens qui font ça, travailler sur des programmes avec eux. Essayer aussi le volet investissement aussi.
Il y a le volet investissement, mais je vais être transparent avec vous. Le volet investissement, il est... c'est une évidence. Hein. Aujourd'hui, les corporates, je vais pas dire qu'ils ne savent que investir. Mais débourser de l'argent pour débourser de l'argent et se dire j'investis et donc ils attendent une rentabilité, je veux aller plutôt sur une valeur beaucoup plus saine que d'aller chercher de la rentabilité. C'est plutôt faire travailler l'écosystème, faire augmenter la connaissance. Voilà, c'est... aujourd'hui il y a même des entreprises corporate qui sont très intelligents, qui font même des programmes à l'intérieur pour leurs salariés, des programmes de vous avez une idée, on va faire un programme start-up, vous allez inventer votre start-up à vous, même s'ils ne vont pas devenir entrepreneurs. Mais même en termes de formation et de coaching et ainsi de suite, ça fait tourner les ménages.
Ça, c'est en interne.
Hein, en interne, oui.
En interne. Alors, donc pour résumer, quelles sont les différentes pistes juste pour
donner... Trois simples. Un, que ça soit les corporates qui font le pas vers les start-up et non pas l'inverse, ce qui se fait aujourd'hui. Deux, créer un incubateur à l'intérieur même de leur société. Et trois, aller dans les incubateurs pour aller voir ces viviers.
Voilà. دونك اليوم هي المؤسسه معناتها تعمل اليوم احنا نوعا ما معناتها في داخلها معناتها وتجيب لها دي ستارت اب تمشي اكثر سا سي سور للمؤسسه الناشئه تقرب منهم او تمشي كاريمون دي بروغرام موجودين معناتها باش تخدم معاهم يا على الموجود نتاعهم خاطر يبداو يعجبهم نوعيه البرامج اللي يخدموا عليها يا كاريمون معاهم مع بعضهم يخلقوا ان بروغرام. Alors Et justement, c'est une évidence. Un peu pour reprendre le slogan de ta Express FM, donc créateur de valeur, c'est voilà, investir pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. C'est des opportunités. En deux petits mots, alors, pour la première partie, aller plus vers les startups, mais comment justement, enfin, c'est...
Je pense, après, je ne veux pas rentrer dans
c'est
le...
C'est un mindset, dans, ouais, mindset. Ou est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que demain, s'il y a quelqu'un qui dit oui, mais j'ai envie, merci, ok, de me le dire, mais comment?
Je pense, je vais faire un peu comme les gouvernements, quels qu'ils soient dans le monde. Quand on veut faire quelque chose, il faut mettre un ministère. Et ben dans une entreprise corporate, il faut mettre un chargé ou un responsable lien start-up. Et une permanence, comme ça, au moins, s'il y a une start-up qui veut aller parler à quelqu'un, il n'aura pas à savoir, à faire sa due diligence pour savoir vers qui aller pour parler de sa solution ou quoi que ce soit.
C'est pas forcément le Chief Innovation Officer, non, pas forcément.
Non,
c'est pas,
non. Moi, je pense que pour donner un impact réel, c'est créer carrément un poste. Il faut savoir des fois trancher.
Et par rapport à pour soutenir en interne, pour s'outiller en interne, c'est-à-dire créer un incubateur, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a des, enfin, comment mettre la première pierre, comment?
Je pense que déjà il faut aller recruter vers l'extérieur des spécialistes, des experts, des startups, parce que malheureusement des entrepreneurs, j'ai déjà vu, on voit déjà pas mal de comment on appelle ça, de personnes qui coachent des startups alors qu'ils n'ont jamais été entrepreneurs. Et ça, pour moi, c'est une grosse problématique parce que le terrain et la théorie, c'est deux choses distinctes. On ne sort pas d'une école pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas de matière qui apprend à être entrepreneur. Donc, pour moi, il faut aller chercher ces entreprises, ces entrepreneurs plutôt, ces startups qui ont eu des échecs, qui ont eu des succès pour les intégrer à l'intérieur de ces corporates. Et c'est lui qui va créer tout son programme et créer l'incubateur.
Alors... بعجالة لما تقتلوا به النقطة الأولى باش تمشي أقرب وقلت كيفاش معناتها دونك اليوم النجم معناتها يقول لك تخلق كاريمون معناتها منصب معناتها في تال مؤسسة شخص معناتها يتلهى بالعلاقة هذه مع المؤسسات الناشئة اللي تنجم مؤسسات ناشئة تجي سبونتانيمون وينجم هو معناتها يتلهى باش يشوف فوالا سا بو اتر اون ايدي سينون بور لي انكوباتور اون انترن معناتها يفو سونتوري بتاتر بالعباد المختصين ومن ليكوسيستيم ودي ستارت اب وكل تشوف معاهم كومون مونتي باري بروغرام الوغ sur la dernière partie, même s'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, Medil Groun,
c'est passionnant de parler avec toi. Vraiment, c'est pareil. Vraiment.
Pareil pour moi. Et Medil Groun, je rappelle, donc directeur général de Cycle Family Office. Alors, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à différents événements, que ce soit au Consumer Electronics Show de Las Vegas ou à Vivatech ou même au Festival de Cannes, pour ceux qui
ne savent
pas, pour les films, non, mais parce qu'il y a des
startups du Web 3.
Tout à fait, des startups du Web3, c'était un challenge, donc c'est là, tantôt en membre de jury, ou alors en tant qu'expert, ou en tant que mentor, etc. Donc, mais voilà, vous sillonnez pas mal d'événements, même dans notre région. Aujourd'hui, s'il y a une question qui se pose souvent, surtout là, je m'adresse aux startups tunisiennes qui nous écoutent, ou d'autres qui peuvent voir la vidéo, mais principalement startups tunisiennes. Quelle est l'importance de participer à ce type d'événement? Est-ce qu'on doit investir? Parce que souvent, on y va parce qu'on est pris en charge, parce qu'il y a un programme qui nous permet d'y participer, etc. Il y en a qui prennent l'initiative, mais c'est beaucoup plus rare. Mais en général, c'est parce qu'il y a un programme, il y a une délégation, il y a des choses comme ça. Quel intérêt pour une start-up de participer à ce type d'événement? Et est-ce que ça vaut le coup d'investir? Et si on le fait, quelle approche, comment participer à ces événements-là? Et quand je dis comment participer, c'est pas comment on sait, ils vont aller s'inscrire, mais je veux dire, quand on y est, comment optimiser le temps, parce qu'à part l'argent, le billet d'avion, etc., et le ticket pour y participer, c'est du temps qu'on investit, et le temps, c'est de l'argent, et c'est très, très vrai pour une start-up. Et une start-up, souvent, ça n'a pas de moyens humains. Vous l'avez dit tout à l'heure, même pour vous, au début, vous parlez de vos précédentes entreprises, donc vous êtes deux cofondateurs, etc. Donc voilà. Donc comment faire pour participer? Pourquoi le faire et comment le faire?
J'aime bien ce rapport au temps que tu as dit. Moi, j'ai toujours ces deux grands sujets importants à discuter avec les start-up. C'est le facteur K, que j'appelle le facteur K, capital, et le facteur T, le facteur temps. ces variables-là, c'est des curseurs qu'il faut toujours contrôler. Et déjà, un événement... il n'y a pas on ne peut pas croiser du monde de l'innovation comme ça dans la rue. On peut croiser des gens pour pouvoir boire un café, pour pouvoir échanger sur la politique, pour pouvoir échanger sur tout. Mais l'innovation, c'est quelque chose de spécifique. Et donc, un salon ou un événement, c'est important d'y aller. Pourquoi ? Parce que c'est dans cet endroit où vous pouvez toucher ces personnes que vous croisez sur LinkedIn. Et donc vous envoyez souvent des messages, on ne vous répond pas parce qu'on ne vous connaît pas. Et donc lorsqu'on est là-bas, c'est important d'avoir des objectifs. On a accompagné, on fait notre propre entre guillemets délégation. Il y a des startups qui souhaitent aller dans ces événements-là. Donc comme ils savent que je fais une annonce et qu'ils savent comme quoi on est là-bas, nous sommes là-bas avec mon équipe, on nous contacte pour pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, ainsi de suite. Donc on leur crée une sorte de... C'est important d'avoir des objectifs. Quel besoin il a réellement, qui est-ce qu'il veut voir, quel secteur d'activité. Et là, il faut aller voir directement les personnes concernées. Il ne faut pas perdre de temps. Donc, comme je le dis précédemment sur les autres sujets, c'est important de se préparer. Quand on va au CES de Las Vegas, quand on va à Vivatech chez Vivatech, quand on va...
C'est tellement truc, grand, c'est grand. Perdre, enfin.
Mais non, ça va aller encore plus loin qu'on va s'y perdre. C'est qu'en fait, à la fin, on va dans une foire, quoi. Et on est là, on regarde, on n'est que spectateur. Et quand on est là-bas, il faut être acteur. Il faut avoir du culot aussi. C'est la posture du dirigeant. Le culot, c'est de pouvoir, si on croise quelqu'un qu'on reconnaît, et en plus quelqu'un d'important, oui, on lui serre la main comme si on le connaissait depuis 30 ans, et on lui parle franco. Et il y a beaucoup de startups qui ont réussi leur coup en pitch elevator. C'est-à-dire, en 1 minute 30, il a essayé de pitcher son sujet. Si demain, à Vivatech, il y avait Elon Musk, moi, en tout cas, personnellement, la posture que j'aurais, je le croise, ne serait-ce que même avec ses gardes du corps, je m'avance comme si je le connaissais. Je lui serre la main et j'essaie de lui parler. Et c'est cette possibilité qu'on peut faire dans des salons. C'est vraiment cette possibilité-là. Et vous allez voir que quand vous passez dans les couloirs des salons, vous allez dire, mais je le connais ce monsieur. Et c'est une fois que vous aurez fait 5 pas, vous allez dire, mais c'est le ministre d'un tel et en plus j'en avais besoin. Je voulais pénétrer le marché institutionnel sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, avoir du culot et préparer, se préparer. Voilà, on ne peut pas partir dans un endroit après. C'est comme dirait Robert De Niro dans le film Ronin, je ne rentre jamais dans un endroit si je ne sais pas comment en sortir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une vision que quand je me prépare, je dois tout savoir, comment je peux faire. Ça ne va pas se passer comme on le souhaite, mais au moins j'aurais organisé quelque chose pour pouvoir atteindre mon objectif.
C'est très important et j'ai raconté peut-être une petite anecdote personnel, mais c'est ce qui est rare. Mais au-delà de ça, juste avant de le faire, c'est par rapport à quand on participe à ce type d'événement, ben on voit des personnes contentes, mais il faut se préparer pour parler à ces gens-là, parce que vous serez peut-être la millième personne à avoir envie de leur serrer la main et de leur dire quelque chose et de leur transmettre un message. Donc je le dis, c'est même valable, pardon de l'exemple, ouais. Mais c'est valable quand on est jeune, quand on a 16 ans et qu'on prépare à 18 ans ou à 19 ans, ou quand on est à la fac surtout, ben c'est là que on est à 2 ou 3 ans de sa carrière professionnelle. Exactement. Elle a réellement débuté. Donc moi je leur dis toujours, moi je le vois, je suis dans beaucoup d'événements. Si demain je vois un ou deux étudiants dans un événement pour les pros, pour les corporates, etc., bah, ils vont se distinguer un petit peu du lot, parce que déjà bah, je vais avoir envie de leur parler, peut-être même de les embaucher, parce que je vais dire, bah, ils ont pris la peine, au lieu d'être au café ou de ce qui est tout à fait naturel ou de s'amuser ailleurs, bah, ils se sont dit sur mon temps, sur ce temps-là, on parle de temps encore une fois, je préfère être là, déjà on se distingue. J'ai préféré déjà être au contact de ce monde-là dans lequel je vais être dans 2 ans et d'essayer de faire mes premiers contacts, ça crée la différence. Préparer ce type de choses, allez-y, allez là où justement on ne vous attend pas. Et c'est ça ce qui fait
et
la différence.
Je rebondis puisque tu le dis, et ces étudiants-là, souvent, ces étudiants ou ces start-up n'ont pas assez de fonds. Ben moi, je suis content de me dire comme quoi ils doivent investir là-dessus. C'est-à-dire que tu as posé une question en disant, ben souvent, c'est des délégations, on attend, enfin les startups attendent la délégation, ils se disent, j'espère pouvoir y être. Moi, je dis investissez là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez un billet dans la poche, payez votre billet de votre poche, n'attendez pas à ce qu'on vous le paye. S'il y a un enjeu réel, allez-y. Parce que c'est là-bas où vous avez les opportunités. Et autre chose, faut pas rester au même endroit.
C'est ce que j'allais dire. Moi, je le vois. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans une délégation? On va peut-être vous apporter de la visibilité, un petit stand, un endroit où vous avez. C'est une sorte de pied-à-terre.
Exactement.
Mais c'est contradictoire avec la logique même de l'entrepreneur. Bouger, partir vers les gens. Enfin, voilà.
Faut être le routard. Sac à dos, on est parti.
Alors, quand je pars dans des événements, et je vais souvent dans des événements, il y a des délégations, parfois tunisiennes, etc., ou autres, et je les vois, ils sont confinés dans leur stand. Et très rapidement, parce que c'est des vrais entrepreneurs, ben, ils ont envie de bouger. Mmh. Et après, c'est le dilemme. Est-ce que je laisse quelqu'un derrière? Parce que si on vient me voir au stand. Mais après, ils se disent, mais allez, tant pis. Parce que réellement, il y a énormément d'opportunités. L'événement est tellement grand que peut-être tout le monde ne va peut-être pas venir passer devant mon mètre carré. Mais moi, je peux aller les voir tous dans leur mètre carré.
C'est ça.
Et c'est ça. Et à partir de ce constat-là et à partir de ce moment-là, là, on va comprendre que, OK, c'est bien de faire partie d'une délégation parce que ça paye certains frais et tout. Mais enfin, de compte, de toute manière, tu peux y aller sur tes propres frais et faire pareil ou même plus que ce que tu aurais fait si tu étais dans une délégation parce que tu es amené à bouger, à aller rencontrer
des gens. J'ai une anecdote c'était mon premier article sur Challenge Magazine. J'étais chez Vivatech et si j'étais resté là où il y avait les stands et ainsi de suite, et si je communiquais pas avec les personnes qui étaient autour de moi, je n'aurais jamais eu cette opportunité-là. Il s'avère que c'était un journaliste du magazine Challenge Magazine. J'ai échangé avec lui, je lui ai parlé de ma solution FinTech. Il m'a dit, mais c'est super. Quand est-ce que tu es disponible?
Et c'est l'anecdote,
comme ça.
Et c'est l'anecdote personnelle que j'allais raconter. C'est moi-même, alors elle est double mon anecdote, parce que moi-même en tant que journaliste, vous imaginez, quand je vais dans des grands événements, j'en ai jamais parlé, mais les interviews que vous écoutez, j'ai tel PDG, j'ai tel patron, vous imaginez que un, je me suis préparé, et deux, d'autres que j'arrivais pas à joindre, j'y suis allé au culot en étant sur place. Et vous imaginez bien qu'il n'y a pas une fée magique bien qui sûr. Est en train de tout me préparer ou de dire voilà, c'est Wassim Ben Larbi qui débarque à Vivatech, comme je l'ai fait il y a quelques mois, et qui est là pour avoir les interviews de Louis Vuitton, de machin truc, d'anticiper sur la start-up derrière, Save Your Wardrobe tunisienne, qui a remporté. Enfin voilà, on y va au flair, au culot, comme vous l'avez dit, on va sur les stands, on va rencontrer du monde, et c'est la nature même de notre travail. Mais il n'y a pas une grande différence at the end of the day. Donc en fin de compte, il n'y a pas une grande différence. On se prépare, et puis on y va au culot, et on essaye d'avoir les bonnes personnes pour essayer aussi de les intéresser. Et puis moi-même, de l'autre côté, je suis dans le rôle où on vient me voir parce que on peut éventuellement. On
te
dit toujours, vous avez le savoir-faire,
voilà,
mais nous, notre rôle, c'est de le faire savoir. Voilà, donc, il faut toujours être à l'écoute aussi des autres. Ça va dans les deux sens. Même pour un entrepreneur, il doit aussi donner le temps pour des personnes qui veulent lui parler, pour des personnes qui veulent. Voilà, ça va dans les deux sens. Et puis, essayer toujours d'avoir le mindset où on veut créer de la valeur. Voilà, créer
la valeur. C'est j'aime bien ce mot-là. Et je viens de le lire, là, créateur de valeur. J'aime beaucoup
c'est
ça
faire, ouais.
Parce que j'ai fait un podcast en France sur l'argent. Le sujet, c'était l'argent. Et on parle de tout. Et je disais que j'étais mal à l'aise avec ce mot-là. Je préfère la valeur. Valeur travail, valeur ceci. Et on revient sur le sujet, l'argent est un moyen. Et là, la création de valeur, je trouve le mot important pour les startups. On ne fait pas une startup pour pouvoir, pour moi, dans ma tête, celles qui réussissent, c'est pas celles qui vont faire des startups pour gagner de l'argent, mais c'est pour créer de la valeur.
J'allais dire dans quelques instants, je vais essayer de résumer un petit peu en tunisien et que je donnerai le mot de la fin, mais ce que vous venez de dire peut être un mot de la fin.
Mais j'ai vu que je me suis étonné à faire une conclusion avec une.
Je vais quand même laisser l'opportunité peut-être dans quelques instants d'un mot de la fin pour vous adresser peut-être aux entrepreneurs qui nous écoutent et tout, mais je vais essayer de résumer. Donc, l'irkin Ali, menkbilik, arkin Ali, bon, la khast kbilik, les approches, les corporates, etc. Mais arkin Ali, les événements, mataliyoum, dim. Les startups, ils ne peuvent pas dire flous, ils ne peuvent pas dire temps, puis nous l'événement, استثمار نتاع وقت, il faut que ce soit rentable, ben لازم يمشي ما ينتظرش انه فما délégation ولا شكون باش يمول ولا شكون باش يهزو. Parfois ça ne coûte pas spécialement cher, on peut avoir des tickets khas en amont, etc. Mais par contre, moi je t'aime pour le plaisir d'y aller, ça peut être pour le plaisir, hein, pour s'informer, pour voir te تشوف معناتها شنو اللي صاير وكل, ولكن تمشي على خاطر تحضر برنامج, شكون تحب تقابل, كيفاش تقابل, bien sûr, فما عباد ما برمجش باش تقابلهم. باش Charles-Douc, les Smektaf qui fait jouer les approchés, qui fait Starkimarm. Et voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans ce type d'événement, même si Narf, Léo, Estethmar, c'est assez à Maoch, Riz, Kertayar, etc., Outil, ou Kul. Mais il faut voir, mais bien sûr, Matamou, je me suis warmé au Rouerko, mais Hadar Rouhak, un minimum, ou je suis au Cherko, parfois, ça ne coûte pas spécialement cher, ou Willy Bistam, le fils délégation, ou Hadar Sassé, un chauffeur à Bétikoulard, ça, la manager, c'est notre délégation, le Flané, il y avait un appel à la candidature, en Kitwa, mais je suis warmé. معناتها وتمشي وتطلع عليهم وتقف بحذاهم ومثالش ما عندكش كل ستاند بتاتر بالوقفة مي بالعكس تمشي تشوف العباد تمشي تدور تمشي تحكي تحاول سي فغي كي تمشي ديليغاسيون ينجموا يحلوا لك بيبان ما انت بيدك تحل بيبان وحدك معناتها تمشي وتحكي مع لي ديفيرون بارتيسيبون اتسيتيرا فوالا انفان فوالا هذا اللي حبينا نحكيوا عليه معناتها على لابروش دونك بالنسبة ليفينمونسيال علاش جبدناه خاطر ميدي الكرون معناتها يشارك دونك membre de jury, fait le Consum Electronic Show Las Vegas, fait Vivatech, fait Cannes, avec les startups web, web 3.
Point, web 3. Oui, oui, c'est ça.
Pardon ?
Web 3, c'est
web ça. Web 3, oui. Ou Réro, معناتها FM. Donc, حبينا نحكيو على l'événementiel, ou كيفاش المشاركة فيه, comment optimiser la participation. On fait l'air, je vais vous donner le ختام. Donc, je vous laisse un petit mot de la fin.
Petit mot de la fin, ayez du culot, de l'audace, et surtout, lorsque vous entrez dans une pièce quelconque, vous êtes chez le médecin, vous êtes à un endroit où vous attendez, quoi que ce soit, lorsque vous croisez des personnes, on est des mammifères avec une relation sociale, il faut savoir qui est qui fait quoi, parce que des fois, vous pouvez être à côté d'une personne qui pourra vous débloquer toutes les opportunités. C'est une vérité absolue. Faut pas être introverti. Battez-vous pour pouvoir être, pas extraverti quand même, mais pour pouvoir communiquer, il faut sans cesse échanger. Et je suis toujours fier de voir même des jeunes étudiants ou même des personnes, si je suis dans la même pièce, on me dit bonjour et on échange. Et ne serait-ce que ça, ils apprennent sur moi et je les aide. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir communiquer sur sa start-up, ne pas avoir peur, surtout ne pas avoir peur de se dire « on va me voler l'idée ». Ton idée, tout le monde l'a eu, t'inquiète pas.
Ouais. La et seule même chose, si tu es le premier à l'avoir, tu peux la faire et quelqu'un peut la faire un mois ou un an après toi et la faire mieux.
Et ça veut dire qu'il y a un marché, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, faut pas hésiter, l'audace et la sympathie. Voilà. La sympathie, c'est la meilleure technique commerciale. Si vous êtes sympa, les personnes souhaitent travailler avec vous. Voilà. Merci de tes questions.
Merci à vous. Alors, Felicher, donc, il roule, t'kun, t'emchi, tosdom, t'halbiben, t'kun sympathique, c'est la valette, qui t'autre le blanc, c'est là où je, ma t'arrives à l'île, j'kun, ma t'halle t'achoué, men wakta, qu'en est-ce que le t'halle t'es ma antibide, qu'en est-ce que t'en fais la bête, t'arrives à l'île l'opportunité, ma n'est-ce win, win G. Et puis, j'aime bien, alors, tout à l'heure, vous disiez, donc, Robert De Niro, dans le film, il dit.
Robert De Niro, il dit très simplement, c'est dans Ronin, lorsqu'il rentre dans une pièce, il doit savoir où est la sortie.
Voilà.
En quelque sorte.
Quand je rentre dans un endroit, je dois savoir comment sortir.
Comment sortir. Donc, exactement.
Notre plan, c'est bien qu'il autrement voilà. Dit, il faut que tu aies fait un conseil ou alors surtout, et avec quoi en sortir aussi.
Exact. Et avec quoi en sortir, j'aime bien ça.
Super. Voilà, je fais évoluer des répliques.
Super,
de
très bien, Niro.
Vous m'inspirez, Mehdi El Ghoul.
Super.
Et vous êtes inspirant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Fi, Bardem et Startup, Chokan, Kubolo, Daoutna. Donc, Lyon, Bardem et Startup, Mehdi El Ghoul, donc directeur général de Cycle Family Office, c'est un Family Office 2.0. Je vous montre à l'émission en replay, tout à fait chaud manière, ou je n'en ai jamais le bar, je ne sais pas, 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 je ne sais
pas, merci. Startup.